Concernant la vague de la fonte de Mobilio, rapidement, c'est une concession qui a été signée avec la commune en janvier 2013 jusqu'en 2021. Depuis, il y a eu deux avenants qui sont passés en 2015 et en 2017 sur cette concession d'aménagement. Un premier avenant pour prolonger la durée de la concession jusqu'en 2028, puisque réaliser 30 hectares à l'époque, hein, puisqu'on était sur 30 hectares, ne pouvait pas être réalisé sur ce laps de temps. Donc on a prolongé la concession d'aménagement. Et ensuite, un deuxième avenant qui est venu en 2017 suite aux études hydrauliques et à la réduction du périmètre, donc de 31 hectares à 19 hectares. Donc un plan, le plan d'aménagement de cette opération est situé à l'est de la commune, hein, donc avec l'architecte urbaniste l'agence Fichet associée. Donc ça, c'est le dernier plan masse qui va faire l'objet notamment d'un dossier de réalisation qui devra être approuvé par la commune. Au niveau du programme prévisionnel des constructions, nous sommes toujours sur 70 000 m² de SDP sur cette opération, donc qui représentera à peu près 740 logements à la fin de ce projet, dont 15% de logements abordables. La répartition aujourd'hui est de 17% de loi bâtir, 52% de logements collectifs libres et 31% de logements collectifs aidés. Il est important aussi de rappeler que cette opération va s'inscrire aussi dans le rythme de production de logements qu'avait souhaité la commune et qui se retrouve dans le stock du Pays de l'Or et également dans le PLH, avec une augmentation et une production de 1% par an maximum, ce qui représente à peu près 72 logements par an à produire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu 120 à 140 logements produits par an en moyenne sur la commune. Ce rythme de production va également permettre d'assurer le besoin, ne serait-ce qu'en desserrement, de la population de Mobilio intrinsèque aujourd'hui. Au niveau de la répartition de ce projet tout naturellement ne va pas se réaliser en une seule tranche. On ne réalise pas 19 hectares de travaux d'aménagement en une année. Donc on a réparti ce projet aujourd'hui sur 4 tranches qui vont s'échelonner en fonction des travaux et de la commercialisation. Donc aujourd'hui, la première tranche de travaux qui se situe au nord de l'opération, donc le parc d'hôtes de l'avenue Jean Moulin, va représenter 210 logements avec 53 logements sociaux, ce qui représente 25%. Et ensuite, chaque tranche, en fait, on va retrouver un pourcentage plus ou moins élevé de logements locatifs aidés pour, sur la totalité de l'opération, retrouver ces 31% de logements sociaux.
Merci. Je vais vous présenter le bilan de l'opération. Avant toute chose, je vais vous expliquer un peu comment cela fonctionne. La première chose, c'est que la première colonne, c'est le bilan qui a été approuvé au 31 décembre 2016. Donc c'est la colonne jaune. Donc on retrouve grosso modo un résultat d'exploitation à 286 000 euros qui avait été approuvé au 31 décembre 2016. On va retrouver ce qui a été réalisé sur l'année 2017. Que ce soit donc en fait 2016 plus l'année plus le cumul 2017. Donc ce sont toutes les réalisations, tous les frais qu'on a pu engager, les recettes que l'on a eues. La prospective sur 2018, 2019 et au-delà, je les ai synthétisées sur 3 colonnes, donc c'est la perspective des frais que l'on va avoir plus les recettes sur les 3 prochaines années, on va dire, les 2 prochaines années plus au-delà. Et enfin là, vous avez le bilan définitif à terminaison de l'opération. Donc on retrouvera les dépenses, les recettes et plus le résultat. Donc un poste dépense qui reprendra différents points qu'on va détailler. Un poste de recette, le résultat d'exploitation qui n'est plus ni moins l'écart entre la recette et les dépenses. Un poste de financement qui correspond en fait à comment on va financer les opérations et les travaux et les acquisitions. Et donc à la fin vous avez un solde de trésorerie.
Alors, les faits marquants hein, sur l'année 2017 sur cette opération, ça a été au niveau des acquisitions un montant de 13 000 euros, je ne me trompe pas, donc qui correspondent à des paiements de l'impôt foncier et puis une mission que nous avons confiée à la FET, qui est un partenaire extérieur et qui nous a aidés notamment sur le montage du dossier de DUP et de l'enquête parcellaire. Nous avons également la cession des terrains, donc la restitution des 11 hectares faisait partie de l'opération au départ, donc dans les 31 hectares de départ de l'opération, et c'est suite ont porté à connaissance des services de l'État sur le risque d'inondation a vu réduire le périmètre. Donc nous ne pouvions plus garder dans le périmètre de la concession ces 11 hectares et du coup on a dû les restituer à la commune. Donc c'est une recette puisque... Au niveau des acquisitions foncières, aujourd'hui, la société détient 45% du foncier sur ses 19 hectares. Nous n'avons pas procédé à de nouvelles acquisitions en 2017. La commune de Mauguio a signé une convention en 2017 avec le PF Occitanie pour prendre en charge ces acquisitions, c'est-à-dire qu'elle assure à la fois certaines négociations et puis elle en prend en charge le portage financier. Et une fois qu'on arrive en fait aux différentes échéances de tranches de travaux, nous rachetons en fait ce foncier à l'EPF. Et il a été décidé également de façon conjointe avec l'EPF que, en fonction du type d'acquisition, c'est-à-dire que si nous sommes sur certaines acquisitions un peu complexes, où il y a des dations à mettre en place ou des échanges de terrain, c'est leur aménagement qui reprendra la main sur ces acquisitions puisque l'EPF ne peut pas réglementairement aller sur ce genre de montage financier. Au niveau des études, donc sur l'année 2017, 288 000 euros d'études qui ont été réglées aux différents maîtres d'œuvre et bureaux d'études avec qui nous travaillons. Donc ça concernait des études urbaines et de programmation, le solde de l'avant-projet 2, puisque nous avons dû reprendre avec le maître d'œuvre l'intégralité de l'AVP qui avait été fait sur les 31 hectares, et on a dû reprendre en fonction du porté à connaissance des services de l'État. Plusieurs variantes sur ce projet. Et puis également, ça concerne le solde d'études acoustiques et de programmation que nous avons réalisé, notamment par rapport à l'ARB au nord de Mauguio. Au niveau des travaux et honoraires techniques, ça concerne quelques petits postes comme des travaux de débroussaillage, puisque nous sommes propriétaires de certains terrains qui jouxent des parcelles et des maisons individuelles à l'est de Mauguio. Donc régulièrement, nous avons passé une entreprise pour débroussailler. On a dû faire des relevés et des plans de géomètre. Et puis nous avons fait également des travaux de sondage pour les réseaux AEP pour les travaux de la tranchine et des études géotechniques. Ensuite, au niveau des frais divers, ça regroupe plusieurs éléments, donc notamment des frais de communication. Donc nous avions une agence de communication qui s'appelait Terraluna et qui nous accompagnait notamment sur des réunions publiques et les mises au point du site internet concernant la fonte de Mauguio. Nous avons eu également des frais d'expertise financière avec une société ALG Finance, des frais d'expertise également auprès de la SET et du cabinet CGCB qui est notre avocat sur cette opération, et puis un certain nombre d'annonces légales et frais postaux liés aux consultations que nous avons dû lancer, donc pour un montant de 24 000 euros sur l'année 2017. Et puis la rémunération de la société qui est basée sur le contrat de concession avec des montants de rémunération forfaitaire et puis des rémunérations variables qui sont adossées sur une partie des dépenses et sur également les recettes.
Donc sur la partie financière, donc deux points, les frais financiers qui sont les frais des emprunts ont représenté 114 000 euros sur l'année 2017. Les points marquants sur l'année 2017, il y a eu la renégociation des frais, étant donné qu'il y a eu l'aménagement du terrain. Donc, après la caisse des dépôts et consignations, on a rallongé de 4 à 10 ans d'emprunt. Auprès du crédit mutuel, on est passé de 2 à 3 ans. Et auprès du crédit coopératif, on a fait un aménagement du capital restant dû. Puisqu'on devait aller plus loin, on est resté sur 1 656 000 euros. Donc ça représente aujourd'hui, au 31 décembre 2017, la mobilisation des prêts, c'est 6 878 000 euros qu'on redécouvre, qu'on voit dessous par le crédit coopératif, toujours 1 600 000. Le crédit agricole, on a mobilisé 128 000 euros. La caisse d'épargne, 1 million, 2 millions sur le crédit mutuel et 1 600 000 sur les dépôts, la caisse des dépôts et consignations.
Au niveau des points clés hein, de l'année en cours, donc de l'année 2018, aujourd'hui en termes de maîtrise foncière, donc une enquête publique a été lancée. Cette enquête publique est une enquête, ce qu'on appelle une enquête unique, qui va regrouper la DUP sécibilité, la mise en compatibilité du PLU et l'ensemble des autorisations environnementales. Donc cette enquête publique est en cours, hein, elle se déroule le 17 septembre au 19 octobre. Parallèlement à ça, nous poursuivons néanmoins l'ensemble des négociations foncières à l'amiable, puisque tant que nous ne sommes pas devant le juge, jusqu'au transport des lieux du juge sur le site, nous pouvons et nous souhaitons poursuivre ces négociations à l'amiable avec les propriétaires qui n'ont pas encore signé sur cette opération. En termes d'archéologie, on avait des sites qui avaient été repérés quand on a démarré l'opération. Donc il y a eu des diagnostics faits par l'INRAP qui ont conclu à la nécessité de faire 3 campagnes de fouilles. La première campagne de fouilles a été réalisée en 2018, qui nous permet en fait de libérer la franchise de l'opération. Sur le démarrage des travaux, de la tranche 1, que je rappelle, se fait sur une partie de foncier que nous maîtrisons à 100%. Donc en fait, des travaux ont déjà démarré côté maîtrise d'ouvrage commune pour la mise en œuvre du cadre hydraulique sous l'avenue Jean Moulin entre septembre 2017 et janvier 2018. Nous avons également finalisé ce qu'on appelle le PROS, c'est-à-dire que c'est un dossier encore plus poussé que l'AVP, donc qui permet avec ce document de lancer, pour DCE, de lancer les appels d'offres travaux. Ce document a été présenté au service technique de la ville et de l'agglomération, puisque l'agglomération est aussi concernée par un certain nombre de réseaux qui vont être réalisés sur cette opération. Et donc il est prévu de lancer la première tranche la consultation pour la tranche 1 et 2 en octobre 2018 pour un démarrage des travaux de la tranche 1 au mois de mars 2019, ce qui nous amènerait à livrer les premiers terrains en novembre 2019. Ensuite, en termes de commercialisation, nous avons lancé plusieurs événements, je dirais, au mois de juin 2018. Donc c'était la consultation promoteur. Donc sur la tranche 1 de l'opération, il y a 2 macro-lots qui ont été lancés en consultation auprès de 20 promoteurs, donc 10 promoteurs sur chacun des macro-lots, donc pour réaliser à la fois de l'habitat collectif et du logement social. Nous avons fait le choix de ne pas passer sur des programmes en ce qu'on appelle en VFA, c'est-à-dire ces promoteurs qui construisent pour des bailleurs sociaux, parce que nous souhaitons avoir une qualité en fait de réalisation de logement social à la hauteur, je dirais, de nos exigences en termes qualitatifs, notamment pour un patrimoine qui est après géré sur 50 ans. Donc sur ces 20 promoteurs, 3 promoteurs ont été choisis sur chacun des macro-lots. Ils vont nous remettre des esquisses mi-octobre. Et donc nous devrions faire le choix définitif des 2 lauréats d'ici le mois de novembre et signer les compromis en 2018. Donc un rappel sur les prix sur les logements collectifs. Libre. Nous avons fait également le choix volontaire de ce qu'on appelle dire caper les prix pour ne pas faire flamber les prix de charges foncières, puisqu'aujourd'hui nous avions eu écho auprès de promoteurs montpelliérains qui sont en attente de cette opération, qu'ils allaient faire des propositions en charges foncières, donc en SDP, très très élevées. Donc nous avons proposé à la commune de lancer cette consultation en disant au promoteur, de toute façon, on ne vous jugera pas sur le prix auquel vous allez nous acheter la charge foncière. Nous allons vous juger sur la qualité de vos projets et également sur le prix de vente de sortie. Donc nous avons bloqué également le prix de vente de sortie de ces logements. Donc aujourd'hui, le prix de vente de sortie sera à 3 700 € TTC le mètre carré hors parking. Pourquoi nous avons fait cela? Puisque sur d'autres consultations et en se renseignant auprès d'autres collègues, quand les charges foncières, donc le prix de mètre carré de SDP va à 600 ou 700 euros du mètre carré de SDP, il s'en sort qu'on a des opérations peut-être avec de très belles façades, mais avec des qualités de logement qui peuvent être déplorables et qui vont engendrer des coûts de fonctionnement pour les acquéreurs, que ce soit des locataires ou des propriétaires, importants. Et nous voulions éviter cet effet de surenchère. Ensuite, sur le logement abordable, donc là, nous avons également fixé les prix à 450 € hors taxe mètre carré de terrain pour un prix de vente à 3 000 € TTC le mètre carré pour le logement abordable. Et sur le logement social, nous avons également capé le prix à 180 € hors taxe le mètre carré pour les bailleurs qui achètent la charge foncière. Nous avons également lancé la consultation pour la vente des lots à bâtir. Donc il y a eu une réunion d'information qui a eu lieu lundi. Nous avons aujourd'hui, sans avoir fait aucune publicité, près de 270 personnes qui se sont inscrites depuis presque 4-5 mois auprès de leur aménagement pour pouvoir acquérir un terrain sur cette opération. Une grande partie sont des gens qui habitent la commune, ou qui ont de la famille à Mobio. C'est important de le dire, puisqu'on va répondre à une demande. Il y a 31 lots à bâtir qui vont être mis à la vente. Donc on a à la fois des lots que nous allons vendre avec permis. Donc ce sont des petits lots hein, qui sont inférieurs à 300 mètres carrés. Et pour pouvoir garantir une qualité urbaine aux futurs acquéreurs qui à cette opération, donc ces 11 lots seront vendus à 485 euros TTC le mètre carré. Et ensuite avec un permis et un prix de sortie des logements qui sera également maîtrisé. Et ensuite nous avons 20 lots libres, donc libres de constructeurs, qui seront vendus à 515 euros TTC le mètre carré de terrain. Nous sommes aujourd'hui à peu près 10% en dessous du marché, puisque ce qu'on a pu observer sur des communes limitrophes ou sur Mogio, on est plutôt aujourd'hui sur des terrains à 600 euros TTC le mètre carré de terrain. Sur l'habitat participatif, donc ça c'est une volonté à la fois des élus de Mogio et de leur aménagement. Nous avons signé un protocole d'accord entre leur aménagement, la commune, FDI Habitat et l'association Écolore, qui a été signée en septembre 2018, et avec un compromis qui devrait être signé en janvier 2019, et avec une SDP qui a été vendue à 470 euros hors taxe le mètre carré. Au niveau de l'échéancier prévisionnel sur l'année 2018, et on va solder l'ensemble des études bois sur eau.
Excusez-moi,
c'est... Surface de plancher, c'est ce qu'on appelait avant la chaune. Maintenant, ça s'appelle la SDP. Donc, sur l'année 2018, on va solder ces études bois sur eau et la mise en compatibilité du PLU. Il va y avoir également la mise en œuvre du dossier de réalisation qui arrête le programme des équipements publics. Le cahier de prescription architecturale qui en fait va guider en fait les personnes pour construire à la fois quand ils sont libres de constructeurs mais également les promoteurs. Il y a eu la réalisation du PRO tranche 1 et 2 et puis également nous avons lancé une étude d'opportunité et de faisabilité pour la mise en œuvre d'un réseau de chaleur sur l'opération. Aujourd'hui sont dévoilées de secret mais en toute transparence les hypothèses qu'on a pu avoir surenchérissent énormément le coût derrière pour l'utilisateur final. Donc on n'est peut-être pas aujourd'hui dans une opération à taille qui permet d'avoir un réseau de chaleur global sur l'opération. Donc on est en train de continuer à creuser cette piste à la demande de la commune. Au niveau des acquisitions foncières, donc on va poursuivre les acquisitions de terrain nu auprès de tiers de la commune et de l'agglomération du Pays de l'Or, puisqu'on rachète une partie du terrain autour de ce qu'on appelle le les oreilles de Mickey, je pense que c'est connu, de l'ouvrage qui est avenue Jean Moulin. Et puis également, il y a la réalisation de la première campagne de fouilles et puis le paiement d'impôts fonciers qui serait de débroussaillage. Ensuite, sur les travaux et honoraires techniques, donc qui vont représenter 233 000 euros sur l'année 2018, nous avons mené des mesures écologiques en stage chantier, donc des choses qu'on va intégrer. Il y a le déploiement des réseaux AEPEU sur l'avenue Jean Moulin, des frais de biomètre et puis ensuite différents frais de reprographie qu'on sera glissé sur l'année 2018. Ensuite, en termes de cession de terrain, qui représente 508 000 euros, c'est en fait la signature des premiers compromis sur la première tranche de l'opération. En termes de synthèse, on voulait refaire un focus sur les écarts. Donc, chaque bilan approuvé à l'année N-1, un bilan d'opération comme une opération sur 10 000 hectares, il bouge sans arrêt au cours de l'année. Et donc après, vous allez approuver un nouveau bilan à l'année, à fin 2017. Et puis vous réapprouverez après en 2018. Et il y a des chiffres qui, au fur et à mesure, s'affinent, puisque quand on signe des nouveaux marchés, ben, on a des montants exacts par rapport aux prévisionnels qu'on peut faire évoluer d'année en année. Donc aujourd'hui, au niveau des recettes, on a cet écart entre 2016 et 2017, un ajustement puisqu'on a plus 1,9 million euros de recettes en plus, qui est lié en fait à un ajustement des surfaces cessibles et puis aussi à une revalorisation et à un réajustement des concessions des terrains, à la fois pour les promoteurs et puis pour les lots à bâtir. En termes de dépenses, c'est plus 2 millions d'euros de dépenses, qui sont liés à plusieurs éléments, à la fois les acquisitions, puisqu'on a dû refaire une actualisation de la valeur vénale de certaines propriétés bâties qui sont au nord de l'opération, et puis au coût de rachat à l'EPF de ce foncier. On a également dû reprendre un certain nombre d'études suite aux études hydrauliques et à cette réduction de périmètre, donc qui représentent plus de 380 000 euros. Donc ce sont des études, on appelle les études pro. On a également eu des travaux et honoraires techniques qui ont augmenté de 780 000 euros en adéquation avec ces coûts de travaux supplémentaires. Et puis on a dû prendre en compte les prescriptions techniques à la fois de l'agglomération du Pays de l'Or, des exigences du département liées à des traitements de l'accès à la ZAC au droit d'un macrolot, le macrolot 7. Également des demandes qui ont été formulées par la commune sur l'aménagement de la place principale de cette opération. Et puis également le recours à une équipe d'écologues pour l'accompagnement des phases chantiers, parce que c'est quelque chose qui est ressorti en phase concertation sur ce projet. Et puis on a eu des frais divers qui ont baissé de 124 000 euros, puisqu'on a essayé à chercher à optimiser certains coûts, notamment l'ingénierie financière. La rémunération de la société augmente en adéquation avec les dépenses et les recettes. Et les frais financiers, plus 185 000 euros liés à des sollicitations de nouvel emprunt sur la tranche 1 de l'opération.
Donc pour conclure, il y a deux points qui étaient importants. Déjà, ce qui était très important, c'est qu'on a cherché à maintenir les équilibres financiers sur cette opération. Et on peut s'apercevoir que l'opération va maintenir une participation aux équipements à hauteur de 3 300 000 euros. Ce qui est un point très important. Et le deuxième, c'est que globalement, on arrive toujours à avoir un résultat d'exploitation de 229 000 euros, légère baisse, mais qui est toujours positif au regard des évolutions qu'on a pu connaître sur l'année 2017.
Je vous remercie. Donc, si vous avez une question technique à poser à Mme Soury ou M. Bassinet, avant de leur. M. Fabetti.
Oui, bonsoir. J'ai trois questions techniques. La première, c'est juste, j'ai pas bien compris le premier slide ou le deuxième. Il y a 13 millions de chiffre d'affaires.
Oui.
Mais c'est le.
C'est le volume de chiffre d'affaires,
c'est le volume de chiffre d'affaires, celui-ci.
C'est sûr.
Mais de la société. De la société, ça.
En général, c'est un million. Toutes les opérations confondues.
Oui. Ah oui, alors les honoraires, c'est le chiffre d'affaires de leur aménagement.
Voilà, en fait.
Les 13 millions, c'est le chiffre d'affaires de quoi c'est,
en fait, on a une obligation de tenir une comptabilité spécifique sur nos actes, donc nos différentes opérations que l'on a en concession d'aménagement. Donc, en fait, ça représente toutes les cessions qu'on peut avoir de l'eau, etc. Ça fait 12 376 000 euros. Sauf que, comme c'est une comptabilité, c'est intégré directement dans notre chiffre d'affaires. Ça implique des taxations supplémentaires, etc. Donc on est obligé d'intégrer ça en chiffre d'affaires, mais notre rémunération, donc nos produits d'exploitation, c'est 1 000 euros. Donc ce sont les honoraires que l'on facture, que ce soit dans le cadre des AMO, du mandat, ou dans le cadre des concessions d'aménagement. Mais on est obligé de déclarer un chiffre d'affaires à hauteur de 13 millions, une consolidation de nos rémunérations, plus les cessions de l'eau à bâtir. C'est d'un point de vue technique et fiscal notamment. On a différentes taxes qui sont indexées là-dessus.
D'accord. Puis, deux autres questions. La première, c'est les personnels de leur aménagement sont fonctionnaires ou en contrat de droit privé? Alors,
tous sont de droit privé, convention collective de l'immobilier.
D'accord. Ok. Et ma troisième question, c'est en termes de stratégie commerciale de leur aménagement. Est-ce que la vocation, c'est de dépasser le périmètre en termes d'affaires, de prospection de l'étang de l'or, d'aller au-delà? Donc du coup, est-ce que la stratégie de résultat, c'est de à terme le maximiser? Dans ce cas-là, y aurait-il des dividendes pour les communes? Et dans ce périmètre-là, nos concurrents sont qui? Vos concurrents sont qui?
Je vais répondre en partie. Bien naturellement, les transformations successives de SEM à SPLA puis à SPL sont de nature à lui confier de plus en plus de pouvoir en matière de compétences au sein même d'un périmètre qui est notre intercommunalité, ce qui n'exclut pas, comme on l'a vu, un contrat avec la métropole pour l'aménagement de Pérol, où nous sommes, en tant que voisins et en tant qu'opérateurs, nous avons été choisis. Effectivement, il y a d'abord une diversification au sein de l'intercommunalité. Ensuite, il n'est pas exclu qu'on prenne d'autres marchés.
Alors, aujourd'hui, en tant que SPL, nous ne pouvons travailler que pour nos actionnaires. Donc, la métropole est un actionnaire de la société, donc nous pouvons travailler pour la métropole. Par contre, nous ne pouvons pas travailler pour la commune de Pérol. Donc le contrat, le mandat que nous avons passé avec la métropole de Montpellier et pas avec la commune de Pérol. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons travailler qu'avec les actionnaires de la société. Demain, il n'est pas exclu que le territoire bouge aussi. Je n'ai pas de boule de cristal. Donc on pourrait aller chercher des marchés ailleurs, mais il faudrait que les personnes avec qui nous travaillons intègrent le capital et soient actionnaires de la société. Donc c'est la condition. Donc aujourd'hui, on n'a pas de concurrence sur le territoire-ci, des aménageurs privés qui pourraient... Les communes ne sont pas obligées de passer par leur aménagement. Après, on a créé un climat de confiance avec les communes qui nous ont confié des concessions avec l'agglomération. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre développement, il est au sein du territoire de l'agglomération. La métropole nous a confié pour la première fois un mandat et derrière, peut-être qu'il y aura des travaux et du coup, c'est aussi des perspectives pour la société. On cherche de toute façon toujours à se développer sur des sujets peut-être encore plus pointus. Et au niveau du territoire, je dirais que ça, c'est une stratégie politique que je laisse aux mains du conseil d'administration et de ses membres.
Oui. Moi, bon, vous le savez, depuis le début, je trouve que ce dossier, financièrement, il bat de l'aile. Il bat de l'aile pourquoi ? Parce que les choses sont faites à l'envers. Quand on regarde l'étude hydraulique, vous nous avez dit on a réduit le périmètre à cause de la crise de 2014, mais ce n'est pas ce que dit le cabinet en Europe. Et si on a de la mémoire, on sait très bien que la Cadoule, quand elle a débordé en 2002 ou en 2003, c'était au moins autant et peut-être plus qu'en 2014. Donc on ne peut pas continuer à faire confiance. Là, on est en train de vendre des lots alors qu'on n'a pas encore la DUP, on n'a pas encore la mise en conformité avec le PLU. Donc de nouveau, on va perdre de l'argent parce qu'il va y avoir encore des modifications, il va y avoir encore des choses qui ne vont pas aller. Donc votre planning, il est bien trop optimiste pour que je puisse m'y conforter. Alors évidemment, on voit bien que la commune est caution à 80% de tous les emprunts. Je trouve ça assez risqué. Voilà, pour moi, c'est une opération très risquée parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines et c'est pas encore... voilà.
Monsieur Trapoli.
Oui, moi, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Bourguet, mais en même temps, vous nous dites que vous n'êtes propriétaire qu'à 45% des terrains. Or, est-ce que le budget que vous nous avez présenté là, il est basé sur ces 45% ou sur les 100%? Ce qui fait qu'on risque d'avoir des surprises quant à peut-être l'achat des prochains terrains, à condition même que vous puissiez les acheter.
On est naturellement sur un budget avec les 100% de fonds, sinon on ne pourrait pas vous présenter un crack, ça serait présenter un faux.
Oui, madame, donc à ce moment-là, on est un peu dans l'utopie dans la présentation, finalement.
C'est la prévision. On ne peut pas présager aujourd'hui à combien vont être expropriés les terrains. C'est ce que je veux dire, Alain.
Oui, voilà. Il y a ça.
Et on a vu, et on voit ce qui se passe à Bayard, par exemple, pour le lac. Oui. Donc, si vous voulez, là, on est dans un dossier où on va plus vite que la machine, et depuis le début, depuis 2006, c'est comme ça. Normalement, on fait un projet, on fait une ZAC. Quand la ZAC est finie, on fait un projet dessus. Là, on avance, on navigue à vue depuis 12 ans maintenant, et on est toujours en train d'augmenter les coûts, et in fine, on ne sait pas où ça va nous mener.
On augmente des coûts.
Si, les coûts.
Vous parlez gratuitement.
Les coûts ne cessent d'augmenter.
On vous dit que le budget est excédentaire de 3,3 millions qu'on est arrivé.
Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est un chiffre. Moi, je peux l'écrire. J'ai dit, voilà, je vais entendre le mec carrière pour 1 700 €. Ça fait tant de bénéfices, mais c'est pas ça.
Monsieur Bouquet, on est ici dans un conseil.
Là, vous n'avez pas les terrains, vous n'avez pas toutes les études, vous n'avez pas la DUP, vous n'avez pas la conformité à l'EPLU. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vendre tout ça sur 1 700 € le mètre carré aujourd'hui. Ce n'est pas possible.
Bien.
Peut-être dans 3-4 mois, oui, mais aujourd'hui, non.
Bien. On est en train de vous dire que la commercialisation va être lancée.
C'est une erreur.
C'est votre point de vue. On vous donne les échéances parce que nous savons où nous allons. Voilà, c'est tout. Alors, posez des questions techniques, pas des questions d'arbitrage de stratégie. Monsieur Fradeil.
Excusez-moi. Là, en fait, on traite de deux délibérations à la fois, hein, en termes techniques.
En termes techniques.
Oui, juste pour avoir le bon ordre du... On commence par la première. Vous trouvez qu'on a des chances de
Moi, je ne souhaite rien du tout. Ce que je dis, c'est que la place, la place de la cellule administrative est autour du conseil pour éclairer sur ce qui est technique. Souvent, vous déplorez de ne pas avoir l'occasion d'avoir le renseignement précis sur tout ce qui est ingénierie. Ensuite viendra le deuxième temps, quand mon collaborateur sera sorti, si vous souhaitez poser une question qui n'appelle pas un commentaire en termes d'ingénierie financière ou d'ingénierie voilà, sur certains choix, si vous.
Donc on commence techniquement, on échange entre nous après plus politique. Donc sur la première délibération et sur votre volume de chiffre d'affaires, je voudrais revenir moi sur les considérations de la Chambre régionale des comptes, qui à l'époque nous avait attiré notre attention sur le fait que le chiffre d'affaires était peut-être trop faible pour pouvoir avoir un outil efficient. Au vu de ce que vous nous proposez là, je vois un chiffre d'affaires qui est un peu en dents de scie et qui, par exemple, sur les AMO, a des pointes et a des baisses. Donc ça attire ça, parce qu'on peut se dire en tant que conseiller municipal, on a un super outil, c'est super, mais comment vous faites pour garder la même efficacité si vous avez des années très creuses où vous ne pouvez pas garder les masses salariales et des années très, très, très pleines où on vous demande des gros dossiers. Donc par rapport à ça, ça réactualise un petit peu là, les pointes d'efficacité, réactualise la remarque de la Chambre régionale des comptes en nous disant sur les AMO, est-ce que vous avez les capacités en interne d'affronter l'ensemble de ces dossiers ? Et est-ce que notre stratégie, s'il ne s'agit pas de se développer, il s'agit de servir au mieux les collectivités, je pense que c'est l'ensemble de ce que dit le conseil d'administration. Donc, comment vous faites pour votre masse salariale, pour pouvoir garder les compétences et pouvoir les libérer quand on se retrouve avec des replis de chiffre d'affaires ?
Alors, sur le chiffre d'affaires, hein, toutes les SM et SL sont confrontées aux mêmes questions, hein, puisqu'on a, quand on vise des concessions d'aménagement, qui sont des contrats de longue durée qui nous assurent des rémunérations, je dirais qu'on peut échelonner sur plusieurs années. Les AMO, on n'est pas du tout dans cette même logique, hein, vous avez raison. Donc aujourd'hui, on a structuré la société avec 12 personnes et on a aujourd'hui une visibilité, je dirais, à 4-5 ans sur des concessions nouvelles qui sont rentrées, qui vont rentrer dans des phases de travaux et de commercialisation qui nous permettent une rémunération. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut assurer et qu'on a besoin en fait de ce personnel pour pouvoir assurer à la fois les missions de l'AMO et les missions en concession d'aménagement qui sont, je dirais, chronophages en termes de temps passé. Après, on est dans une société de droit privé, donc nous, on essaiera de maintenir ce chiffre d'affaires pour assurer, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il nous faut à peu près plus d'un million d'euros pour pouvoir assurer ce personnel. Et après, comme dans toute société, si demain, on n'avait plus rien du tout, eh ben, on développera une autre stratégie vis-à-vis du personnel, c'est-à-dire comme toute société de droit privé.
Donc, le sens de ma question, c'était de savoir si vous aviez un réseau de compétences extérieures et freelance. C'est pas le cas. Vous êtes analysé systématiquement.
Alors, non. En fait, on a des métiers auxquels on fait appel à l'extérieur, c'est-à-dire, par exemple, la SET, donc Société Centrale des Clients du Territoire, qui est associée à la Caisse des dépôts et consignations, donc des territoires, donc, dont on fait partie, et donc, du coup, qui nous amène une ingénierie financière, technique, sur des sujets plus pointus, dans lequel nous, on n'a absolument pas vocation, si c'est one shot, à embaucher une personne avec tel profil, si c'est pour une opération. Donc on va faire appel à cette compétence-là. Après, on externalise beaucoup de choses, on externalise aussi les cabinets d'avocats. Voilà, du coup, toutes ces compétences sont externalisées. Par contre, le métier de chargé d'opération, il ne peut pas s'externaliser. C'est une compétence bien particulière, il ne peut être qu'au sein de la société.
Je faisais cet ensemble de remarques, parce que ça, je ne sais pas si vous savez, mais on est sous contrainte d'État de contrôler notre fonctionnement. Avec une baisse de pourcentage, je parle sous le contrôle de notre adjointe aux finances. Donc on est sur tous nos services, on fait extrêmement attention à avoir des services efficients. Et je ne parle pas de la qualité des personnels ou des partenariats, hein, mais je parle simplement de l'effet ciseau que vous nous avez décrit dans ces chiffres-là. Ça ne peut pas faire de la bonne gestion. Donc ça veut dire, là, au vu des chiffres que vous nous présentez, vous avez un effet de montagne russe qui me semble inquiétant.
Je suis d'accord. Il y a deux aspects. On vous a quand même essayé de vous projeter des résultats à l'équilibre à chaque fois. Le deuxième point aussi, c'est qu'on a quand même, il est possible qu'une année soit déficitaire, on a quand même un peu plus d'un million de fonds propres sur lesquels aujourd'hui on peut très bien puiser sur une année ou qui sera vraiment plus difficile. Donc ça aujourd'hui, c'est là, on a un million de quelque chose, on peut aller chercher dans ces réserves-là. On a quand même solide financièrement. Donc après, ce que Frédéric dit, ce qui est important, c'est vrai que cet effet ciseau-là, on peut l'avoir à un moment où une activité un peu plus basse sur les AMO, mais normalement, on essaye de prolonger par, de combler par, le, par les AC. En fin de compte, des fois, on est obligé d'investir très fortement dans les AMO, et, un moment, et on, c'est comme ça, en fait, c'est très haut sur les AMO, et c'est très bas l'année suivante, mais c'est le relais qui vient derrière sur, sur la ZAC. Donc c'est vrai que ça paraît très dangereux sur les AMO, mais on essaye de trouver un équilibre sur les ZAC aujourd'hui. Bon, on remonte aussi, et c'est aussi pour ça qu'on a signé des mandats aussi, pour essayer de trouver un équilibre, et notamment une régularité sur ce chiffre d'affaires.
D'une manière générale, la SEM, quand elle était SEM, se contentait, entre guillemets, souvent de la part congrue qui était celle de l'AMO. Souvent, elle déléguait à Topaz, si vous avez suivi l'actualité, je le sais, pour être opérateur. Aujourd'hui, à l'image du recrutement de M. Bassinet, en termes de ressources internes, au lieu d'externaliser certains services financiers, nous avons estimé, et on a pris le cas de la calculette, qu'il est plus intéressant, plus rentable d'avoir l'ingénierie, l'intelligence à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qui n'exclut pas, de temps en temps, j'appelle un cabinet d'expertise. Voilà. Donc, on est passé d'une phase où les AMO étaient le quotidien, avec de temps en temps une cerise sur le gâteau qui était une concession d'aménagement. Aujourd'hui, à l'exception peut-être d'une commune, je pense à Palavas, pour des raisons peut-être de contraintes foncières, on vient de livrer le plan des aires à Meudaison. On est sous la ZAC des Châtaigniers à Saint-Aunès, on est en plein, succédant en privé, le Valade des Pruniers. On est sur un futur, la zone des Conques à Lansargues. On est sur les Roselières à Valergues. À Candiargues, il y a eu, c'était avant. Et à Moguio, maintenant, on est sur la fond de Moguio, avec un magnifique projet, en termes d'importance en tout cas. J'espère pour la commune que ce sera magnifique. La ville porte pour la grande montée. Donc, il y a quand même des recettes dans l'inscription d'une vision et d'un temps qui n'est pas celui que d'une simple exécution budgétaire d'une AMO. C'est-à-dire qu'il y a de la visibilité, si vous voulez. Vous avez regardé tout à l'heure le chiffre d'affaires des trois dernières années, il monte régulièrement. Et si on monte également en compétence en recrutant des chargés d'opération, où il y a deux ans, Madame Mabouin, qui est venue faire un petit peu l'interface entre la directrice, Mme Sori, et l'ensemble des autres agents pour justement la délaisser de certaines missions, prouve que la structuration est un acte administratif qui vient conforter un volume d'activité qui est croissant. Alors là-dessus, je pense que là-dessus on est d'accord. La visibilité des AMO, la visibilité des concessions d'aménagement, nous amène pour Moguio jusqu'en 2028, la Grande Motte 2030, Saint-Aunès, mais je sais pas, il y a quand même un échelonnement qui nous permet d'avoir vraiment du grand monde. Est-ce
que j'en peux estimer aussi, ça démarre à peine et c'est quelque chose.
Si vous voulez, en fait, moi, je pense qu'il y a deux variables. La première variable, c'est ces effets de ciseaux qu'on a constatés. C'est la première variable. La deuxième variable, quand on est autour de la table du conseil municipal, c'est de se poser la question où on met. Comment dire, l'intelligence en termes d'urbanisme. Est-ce qu'on la garde à l'intérieur des services de la commune? Est-ce qu'on la fait remonter à la métropole? Est-ce qu'on la met à la SPLA? Et là, il y a des questions politiques et stratégiques qu'il faut poser. Et c'est une autre variable, avec deux sous-variables, l'efficacité et après la capacité aussi d'auto-analyse.
Monsieur Bernard Cassard, vous pouvez vous dire tout à l'heure que la SPL a comme mission la révision du PLU, c'est-à-dire que tout est dans tout. Nos services travaillent de concert avec la SPL, laquelle travaille avec la métropole quand on a un projet qui croise des enjeux communs. Les enjeux de territoire, c'est le créneau de la branche, sont des enjeux communs. Et les SCOT qui viennent aussi là-dessus parachever les documents d'urbanisme plaident quand même pour une intelligence collective. Ce qu'on fait avec la région ou avec le département. Quand on travaille sur le pont de Pérol, sur le franchissement du pont de Pérol que VNF va relever, quand on discute avec les techniciens de la région, ou avec les techniciens du département, ou les élus de la région du département, tout le monde s'accorde pour l'intelligence collective. Et l'urbanisme, vous avez raison, c'est l'écriture de la vie de demain. Mais pas que l'écriture des villes, l'écriture fonctionnelle. Je pense que là-dessus, on se retrouve assez naturellement et assez facilement, je pense. En tout cas, je le souhaite, plutôt pour.
J'ai une question un peu technique. Si j'ai bien compris, donc en 2018, vous devriez contracter un nouvel emprunt de 2 millions d'euros, plus une ligne de crédit ouvert de 2 millions d'euros. Voilà, je voulais savoir un peu où ça a été, est-ce que vous avez obtenu le crédit, les emprunts, puis une ligne de crédit ouverte, est-ce que ce n'est pas un peu cher, est-ce que ce n'est pas un choix cher aussi en termes d'agio?
Alors, deux points. Le premier sur l'emprunt, on ne l'a toujours pas lancé, puisque ça a pris un peu de retard, donc là-dessus on le fera certainement au premier trimestre 2019, c'est pour le financement des travaux. La deuxième, la ligne de crédit, ça permet en fait d'être un peu plus flexible et c'est le temps, ça finance une partie des travaux certes, mais en fait le temps qu'on signe entre le compromis et les actes authentiques, il y a une phase on va dire de 10 à 12 mois et on ne peut pas signer un emprunt pour 10 ou 12 mois et du coup on demande une ligne de crédit. Les taux aujourd'hui sur les lignes de crédit sont plutôt bas. Je les ai plus en tête, mais on en a signé un sur, récemment sur les châtaigniers. Et 0,70 de taux. Quand on voit qu'un taux fixe sur 5 ou 6 ans, on en a signé un récemment, on est à 0,66 ou 0,61. Donc ça ne joue sur pas grand-chose. Ça nous permet une certaine flexibilité, en fin de compte, de prendre une ligne de crédit qui est plafonnée. Il y a un montant maximal. Et en fait, on le rembourse très rapidement par la signature des actes.
Les comptes donc de la SPA sont certifiés par commissaire aux comptes
oui.
Et les budgets, oui. Vos budgets, les prévisionnels.
Non, pas prévisionnels, non. D'accord. Juste les comptes.
Monsieur Trenet, si vous permettez, sur la deuxième délibération, celle qui porte sur le compte rendu, sur la ZAC de Montguiot, donc une série de questions un peu plus techniques. J'ai vu passer 15% de logements abordables, puis 25% de logements sociaux. Des fois, on a des effets de vocabulaire. Oui, voilà. Et donc, si on voit ça une jolie idée, on se dit, ah, okay, elle est jolie, et il y a un peu de logement social, et on ne va pas content. On a des engagements par rapport à la loi SRU. Et je voudrais, c'est là-dessus que je voudrais discuter. 70 000 mètres carrés de plancher, 740 logements, donc 15% de logements abordables. Alors, quelle est cette notion et par rapport à nos engagements de la loi SRU, quel est le choix que vous avez fait?
En fait, il y avait un 31% de logements sociaux, donc dans les 740 logements, il y a 31% de logements sociaux, et en plus il y a 15% de logements abordables, logements locatifs aidés, ce qu'on appelle le PLS ou le PLAI. Donc on est en adéquation avec les objectifs du PLH et on travaille avec l'agglomération et c'est également de la communauté sur ces sujets. Et en plus, on a introduit dans l'opération 15% de logements abordables, donc qui sont des logements un peu moins chers que le logement en accession libre. Voilà. Donc c'est un objectif qui est inscrit dans le PLH de l'agglomération. Donc ça s'additionne en fait
ça 31%. Ça se suradditionne.
Oui.
Alors sur la phase 1, vous nous annoncez 25% de logements sociaux. C'est une grande satisfaction, puisqu'on était parti dans une réunion publique à 19% et nous montons à 25%. On ne s'est pas fréquenté pour rien. On a bien fait de délibérer.
Mais on a travaillé l'étape. Du coup, on a travaillé.
Mais alors, que s'est-il passé pour les 5% manquants? Alors, la question moi, que je vous pose, c'est. La question que je vous. Mais on aura les choses tout à l'heure, hein, M. Valdemont. La question que je vous pose, c'est pourquoi les promoteurs, surtout notre PLH, disent il faut faire 30% sur toutes les opérations, par immeuble, par opération, hein. Et pourquoi nous, on se tient à 25%?
C'est sur l'ensemble de l'opération.
Alors vraiment de mémoire, monsieur l'adjoint
à l'urbanisme. C'est même, il y a un codicile pour la ville de Mongio qui dit que dès qu'il y a plus de 6 appartements, on tombe à 30%. C'est à partir de 12 pour l'ensemble de la, du pays de l'Or, mais à partir de 6, par opération. Et bien donc, que se passe-t-il? Où est le tour de passe-passe que je n'ai pas compris?
L'opération, c'est l'ensemble de la fonte Mogio. Sur l'ensemble de la fonte Mogio, il y aura 30% de logements sociaux. Sur okay. la première tranche, il y en aura 25. Sur d'autres tranches, il y en aura plus de 42 ou 43. Et sur l'ensemble, on arrivera à 30% de logements sociaux.
Vous êtes encore plein d'espoir, mais moi, en 2026, je serais bien vieux. Vous ne préfériez pas qu'on fasse 2021 tout de suite, hein. On fasse nos 30%, comme ça, on sait qu'on arrive dans une situation où on a fait quelque chose d'utile.
C'est pas comme quand on se verse une dose d'apéritif. Vous savez très bien, M. Pradeil, que la configuration permet parfois, en fonction de la typologie des logements, s'il y a du lot libre, pas du lot libre, du semi-collectif ou du collectif, en fonction des hauteurs que l'on veut aussi adéquates avec la, la topographie, vous savez comme nous qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, y compris au niveau de la première tranche ou au niveau de ce qu'on appelle les oreilles, vous appelez ça les quoi? Les oreilles de Mickey. Nous aurions aimé disposer d'une emprise un peu plus importante, à ce moment-là on aurait pu augmenter également, parce que l'opération, il faut aussi qu'elle tourne. Donc, on est dans le respect absolu. On est dans le respect absolu. De toute façon, les prix que nous sortons sont des prix qui sont inférieurs au prix du marché.
Donc, ça tiendra le contrôle de l'élite, par exemple.
Ça, sans aucun souci.
Oui. Par rapport au PLH.
C'est le PLH. Moi, je veux. Monsieur Cassard, la semaine dernière, représentait l'intercommunalité, puisqu'il est vice-président au niveau du. Du Scott, là.
Au niveau de la commission de l'environnement, de la protection de la nature et forestière et agricole.
Et vous en avez où?
Du CDP, là.
Et pourquoi non?
Demandez-leur pourquoi ils m'y ont mis, je ne sais pas. C'est moi qui représentais effectivement l'agglomération au niveau de cette commission pour présentation du Scott. Et nous avons eu les félicitations de la préfecture, les félicitations de cette commission.
Bon, je vous redis mon désaccord. Ça fait 35 logements, hein, la différence entre 25% et 30%. Ça fait 35 logements, si mes souvenirs sont bons. Vous n'arrivez pas à trouver 35 logements?
Franchement, il y a beaucoup.
Moi, ça fait 6 mois qu'on en parle, et en 6 mois, vous ne trouvez pas 35 logements?
En
6
mois, on a
trouvé 35 logements. Je suis déçu, moi, je crois en vous. Je suis déçu. Ouais.
Bon.
Donc. Non, mais c'est important, sur l'eau, je prends le
temps. On est dans la deuxième
partie. Oui, on est dans la deuxième partie. Je suis d'accord.
Je vais demander à Mme Souris et M. Bastinet s'ils ont plus de questions.
J'ai encore une ou deux questions techniques.
Alors.
Sur les 11 hectares, ces 11 hectares auxquels nous avons renoncé par rapport aux portées à connaissance. Nous les avons acquis pour, si j'ai raconté, pour à peu près. Non, ça fait 6 millions d'euros en tout. Ça fait 6 millions d'euros, il me semble. J'ai lu vos documents, mais ça fait à peu près 6 millions d'euros. Donc, on nous dit, non, c'est de l'inondable, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Ces 6 millions d'euros, ils sont. Je voudrais vraiment rediscuter avec vous pour bien comprendre ce que je. Qui les porte, qui les paie et comment ça se passe. Je voudrais savoir quelle partie est portée par l'opération et quelle partie est portée par la commune. C'est normal qu'on se répartisse, mais je veux savoir à quelle hauteur pour qu'on puisse discuter exactement quand on sera sur la place.
Alors,
mais c'est la réponse, monsieur le maire.
Je réponds juste techniquement, après le reste, ça ne revient pas. Les 11 hectares, en fait, on a acheté à 23 euros du mètre carré. On a racheté à la commune, quand on a acheté l'intégralité, il y avait 11 hectares, donc ça représente 2,5 millions. On a recalculé tout ce qui est énorme. Donc, ces 11 hectares qui sont maintenant sortis de l'opération, on les a revendus à la commune, plus à 23 euros, mais on les a revendus à 5 euros du mètre carré. Donc aujourd'hui, ils ne font plus partie du bilan de l'opération. Donc ils font partie du bilan de l'opération dans les frais. Voilà. Et
donc la masse d'argent, ça veut dire combien porte la commune et combien porte l'opération.
Aujourd'hui, la commune, elle a 2 millions... Elle a 5 euros fois 11, donc elle porte aujourd'hui 550 000 euros de foncier.
La commune a racheté autant 557 000 euros les 11 hectares. Donc voilà. Et nous, on avait payé 2,5 millions. Donc la ZAC, aujourd'hui, elle porte la différentielle de 2 millions.
La ZAC porte, pas la commune. Vous l'avez dit.
Non, c'est une répartition.
La ZAC, elle porte 2 millions aujourd'hui.
La ZAC porte 2 millions.
C'est ça.
Donc ce qui veut dire, c'est une question vachement importante, parce que ça plombe, pardon du terme, mais ça pèse sur l'équilibre et donc sur le prix de revente. Ah non, si, ça compte. Quand vous les avez achetés et vous les portez dans les frais, donc vous devez équilibrer. Et ça m'étonnerait que les autres administrateurs des autres villes vous les aient fait remonter dans les hors de l'opération. Donc ça porte, s'il y a 2 millions qui portent, c'est ça que vous êtes en train de venir sur 2,5 millions, il y a 2 millions qui sont portés par l'opération elle-même et dans l'équilibrage de l'opération. Et on se le dit. Quand on part avec 2 millions. Pour équilibrer, c'est vrai que vous, avec 2 millions, on doit pouvoir faire une quarantaine de logements sociaux quand même. Non, mais je le dis en plaisantant, mais on cherche l'argent là. 2 millions, c'est une vraie masse. Hein. Et le fait que la commune prenne 500 000 et l'équilibre de l'opération prenne 2 millions, ça, il me semble que ça fait partie du débat qu'on doit avoir entre nous quand vous rendez compte. C'est, je pense que c'est une information très importante. Pareil pour la deuxième question. Vous évitez systématiquement, je ne vais pas le formuler comme ça, je n'arrive pas à avoir quel est le prix du foncier, quel est le prix de revente du foncier. Vous avez expliqué dans une première approche que vous faisiez des concours, des consultations en disant que ce n'était pas la question. Vous nous faites quand on a été amené à discuter des colors, la question s'est posée aussi. C'est très important pour savoir, pour la bonne gestion, de savoir ce foncier qu'on a acheté à 23 euros, à combien on le revend, et est-ce qu'on a bien fait d'aller sur cette opération-là. Est-ce que le prix lourd n'est pas fait mieux que nous. C'est une question qui s'entrame, ça. Donc par rapport à ça. Moi, pour avoir de la transparence, donc je réitère la question, parce qu'au vu de vos projections, je n'ai pas été tout à fait rassasié sur les questions que je vous posais. Première question, quel est le prix envisagé? Il n'y a pas de presse en plus, donc on risque rien. On peut, si c'est un secret, on n'est rien qu'entre nous. Quel est le prix cible et qui va relever nos coûts pour savoir si on est hors marché? Du foncier, première question. Deuxième question, est-ce qu'on a une approche différenciée entre le logement libre, le logement aidé, le logement purement social? Est-ce que c'est une approche très différenciée? Donc ça, c'est des discussions qu'on doit avoir quand on rend compte.
Il y a une décision qui est politique, elle n'est pas technique, celle de confier à un aménageur public une opération où on veut inclure les gens et non pas les exclure. Il est de notoriété publique que les opérations privées sont de nature à générer de l'argent pour le privé, qui se conforme bien entendu aux lois de la République en termes de logement locatif aidé. Néanmoins, ce que nous avons nous souhaité introduire, la dimension que nous avons souhaité introduire et qui est nouvelle, c'est l'habitat participatif. L'habitat participatif n'est pas une opération pour gagner encore plus d'argent. C'est une opération pour associer davantage les citoyens à un mode de vie, à quelque chose qui est nouveau, qui est novateur, et où on veut justement qu'il y ait une ouverture supplémentaire à des personnes qui sont déjà des possédants ou pas, et qui libéreront des terrains ou des habitations en centre-ville. Vous avez une différenciation entre le logement abordable, qui ne fait pas partie du logement social, mais qui est voulu par la loi, par notre PLH, qui fait que vous avez quand même, en tout, vous avez au moins 4 variétés de prix. Le lot libre, pour celui qui a les moyens de s'acheter un lot libre, à 515 euros. Vous avez, là il y a 20 lots, vous avez 11 lots qui sont inférieurs à 300 mètres carrés pour des gens qui correspondent au profil de ceux qui étaient éligibles au prêt à taux zéro, qui n'étaient pas propriétaires, c'est-à-dire de nouveau les futurs nouveaux propriétaires, où là vous avez des lots à 485 euros. L'habitat participatif est à 470 euros hors taxe en surface de plancher. Et vous avez ensuite les autres lots où vous avez des prix capés, des prix de sortie capés pour ne pas que l'opérateur gagne de l'argent sur le travail qu'a réalisé la commune et la SPL. Je pense qu'on vous donnera une fiche, si vous voulez, dans le compte rendu, dans laquelle on séquence logement abordable, logement social et logement pour les primo-accédants. Voilà.
Si on n'est pas en capacité de nous répondre tout de suite sur le prix de vente du foncier, je ne parle pas moi de la surface de plancher, de l'ancienne chaude, je parle du foncier, parce que c'est universel.
Alors, juste, M. Pralay, en fait, quand on vend dans une opération d'aménagement à des promoteurs, on ne vend jamais du mètre carré de foncier, on vend de la surface de plancher. Donc je ne peux pas vous donner le prix de foncier, puisque ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, le prix de foncier, quand on indique là sur cette diapo que je vous ai remis, on vend du foncier pour les lots à bâtir. Donc ça, quand on vend à un particulier, on vend une parcelle de 300 mètres carrés, de 250 mètres carrés, ça, on lui vend là, au prix que je vous ai indiqué, donc 485 euros, CTC, le mètre carré. Donc on vend du foncier. Par contre, à un promoteur ou un bailleur social, on ne vend jamais du foncier. Pour lui, ça ne veut rien dire. Si on lui vendait 400 euros du mètre carré de foncier, il ne s'y retrouve pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien il va pouvoir construire de surface de plancher. Et donc le terrain vaut par la surface de plancher que vous vendez. Donc oui. N'importe quel aménageur privé ou public ne vend que de la
SPL. Au moment où un promoteur a du foncier à disposition et un tarif, s'il lui n'entre plus, il sait combien il peut faire de plancher.
Oui, mais je ne peux pas vous donner l'indication, enfin techniquement, c'est impossible que je vous dise à combien je lui vends la matière de foncier, puisque je ne lui vends pas du foncier, je lui vends de la SGP. C'est-à-dire aujourd'hui, quand un promoteur vient, un produit de Mondio vient acheter un hangar route de Montpellier, par exemple, il ne va pas acheter au propriétaire en mètre carré de foncier, il va lui acheter de la SDP. Donc la valeur de son terrain, elle ne prend de la valeur que parce qu'il peut construire.
Je vais vous dire où est mon inquiétude. Prenons l'habitat participatif, pas parce qu'on l'aimerait moins que les autres, c'est même l'inverse, mais parce qu'on le connaît mieux, puisqu'on l'a traité en conseil municipal. En conseil municipal, on nous a demandé de nous positionner en disant la cible de vente, c'est 3700 euros le mètre carré. Quand j'ai demandé quel était le tarif du foncier mis à disposition, on a dit on n'est pas en mesure de le faire.
470 euros du mètre carré de SDP.
Et aujourd'hui, on nous dit 470 euros de SDP. Et alors je me dis, mais la différence entre les 470 euros de SDP là et les 3000 euros cible, vu qu'il y a dans le tour de table qu'une association et FDI, qui marge dessus? Où est-ce que ça passe?
Alors, vous prenez, vous,
si vous voulez, moi, on a besoin, parce que si vous voulez, je lis pour les conseillers municipaux, on va aller au contact devant la population, c'est une opération en recettes qui coûte, en dépenses, qui coûte 32 millions d'euros. Vous en passez en investissement 4,5 millions par an. Là, il y en a 32 qui sont sur la table, on ne les contrôle pas plus que ça. Et ça va générer, si on allait jusqu'au bout, ça va dérouler à peu près un chiffre d'affaires, un combien entre 120 et 150 millions d'euros. Pour les promoteurs, au bout du bout. Et vous ne voulez pas mettre plus de contrôle que ça? On a une discussion une fois par an sur le crack. C'est pas possible. Il faut quand je vous demande quel est le prix. Alors je comprends que le prix de vente du foncier puisse être un enjeu. Mais au moins, dites-nous le prix de revient. Vous avez acheté des terrains agricoles, vous allez mettre une DUP, et vous n'êtes pas capable de dire à combien vous les revendez par là.
Mais où vous l'avez vu, ça? Où vous l'avez vu, ça? C'est ce que vous demandez, ce référencement. Montrez-le-moi quelque part. Il n'existe pas. On vient de vous expliquer que c'est de la surface de plancher, ce Pradeil. Si ça existait, on vous le dirait. Ça n'existe pas.
Monsieur le maire, quand vous aurez la fin, arrivera un jour où vous nous ferez un bilan des activités et vous nous direz, j'ai vendu tel terrain de telle superficie à tel promoteur.
on fera une règle de 3 et on aura le résultat. Je préférerais qu'on en parle avant plutôt qu'on en parle après, c'est tout. C'est tout. Et ne me dites pas que c'est impossible. Tout le monde fait ça systématiquement. Systématiquement. Le prix du mètre carré, le prix à la revente, sur n'importe quel petit quartier, petit projet communal, comment ça s'appelle, mais la moindre commune qui fait lotissement communal, on a un prix de sortie.
Vous avez peur de quoi? Comment il ne trouve pas?
J'ai peur de rien. Je veux simplement faire le job.
Ben, dites que la SPL ne le fait pas.
Non.
On va vous faire sortir,
c'est tout l'inverse. Monsieur le maire.
J'ai encore une petite question. Une petite. Vous avez parlé, 3 000 euros de mètre carré pour les trucs accessibles, sans parking, hors parking. Quand on sait les difficultés de stationnement qu'on a déjà dans ces quartiers, pour vendre nos vélos hors parking, ça veut dire que les gens vont aller se garer dans les lotissements existants. Donc pourquoi avoir fait ce choix?
Je me suis mal expliqué, c'est qu'il y a des parkings, puisque le PLU oblige à réaliser des parkings, mais par contre le prix, là qu'on vous présente, il est hors parking.
Mais ils seront obligés d'acheter un parking.
Oui, de toute façon, on est obligé de faire du nombre de places de stationnement.
Non, je parle pas du nombre de places. Oui. Je parle qu'ils seront obligés d'avoir 2 places de parking pour chaque logement. Donc ça va augmenter le prix du logement. En fait. Il sera plus de 3 000 euros le mètre carré. Et combien vous coûtez les parkings?
Je n'ai pas encore le montage. Je n'ai pas encore le montage des promoteurs.
Bien, je crois qu'on va remercier Mme Sauré et M. Bassillet. Merci pour votre disponibilité.